Je suis ravi que nous puissions commencer cette année avec Fabrice Hadjadj, qui est un ami de cette maison. Je complète un tout petit peu la présentation qu'on a faite Jean-Noël. Fabrice aime bien se présenter comme portant un nom arabe, né d'une famille juive mais athée, et converti au catholicisme. Ses études l'ont conduit de Sciences Po à la philosophie. Il enseigne la philosophie, il l'a enseigné en lycée, il l'enseigne à l'Institut de philosophie comparée à Paris, il a enseigné aussi au séminaire de Toulon, et depuis un an dirige l'Institut Philanthropos à Lausanne, à Fribourg. Fabrice est un écrivain prolixe, il a publié une quinzaine d'ouvrages, plusieurs distinctions, plusieurs prix qui ont distingué certains de ses ouvrages. Il écrit dans trois domaines principaux, le théâtre, donc quelques pièces, « À quoi sert de gagner le monde ?»,« Le massacre des innocents », »,« Pacifae », des essais, j'en cite quelques-uns, pas tous, « La terre, chemin du ciel »,« Réussir sa mort », au titre évidemment provocateur, « La profondeur des sexes » en 2008, « La foi des démons », qui est d'ailleurs le déploiement d'une conférence donnée ici, Le paradis à la porte, un essai tout récent. Et puis également des livres d'art. Un très beau livre en collaboration avec Arcabas, qui s'appelle Passion-Résurrection. Et puis des commentaires, des méditations sur l'agneau mystique de Gand ou le retable du jugement dernier de Beaune, parmi d'autres titres. Fabrice est une des voix chrétiennes les plus écoutées aujourd'hui par la profondeur de ses analyses, toujours stimulantes. Son sens du paradoxe et de la formule, ce que j'appellerais, moi, son impertinence tranquille, sa radicalité souriante. C'est quelqu'un qui va à la racine des mots, à la racine des pensées et des opinions. Il était donc l'intervenant idéal pour cette soirée. Le thème de cette soirée, donc vous le savez, enseigner la morale à l'école, référence directe évidemment à un débat actuel, mais en réalité récurrent dans l'éducation nationale. Et notre cher ministre, soufflant le chaud et le froid, nous met en joie lorsqu'il dit que la morale laïque est une morale commune à tous. Et c'est justement son respect qui autorise la liberté et la coexistence des croyances individuelles. Que la morale n'est pas une morale d'État, qu'elle est le contraire d'un dogmatisme, qu'elle fait le pari de la liberté de conscience et de jugement de chacun, qu'elle vise l'autonomie. Malheureusement, au même moment, il dit aussi qu'il souhaite s'appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités, notamment dans le domaine de la morale sexuelle, qu'il ne veut pas introduire le gender à l'école, alors qu'en fait il favorise en amont colloques, formations et associations, luttant pour cette introduction, qu'il définit la laïcité comme une nouvelle religion, seule conforme aux progrès sociétaux à venir. En tant qu'éducateur, nous le savons, nous n'éduquons pas dans la neutralité, donc la question de la morale à l'école est une vraie question. Cependant, cette question ne renvoie-t-elle pas à un questionnement plus général de notre société, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonde la morale? Bref, à quoi bon enseigner la morale si la question de ce qui est bon pour l'homme nous trouve divisés et parfois même désabusés? Je laisse la parole à Fabrice en le remerciant de tout cœur de sa présence parmi nous.
Merci Xavier, merci Jean-Noël. Je dois vous avouer que j'aime pas trop parler de morale, mais je vais essayer de m'y appliquer ce soir. Je suis pas du tout spécialiste des questions qu'on va aborder. Si je suis venu ici, c'est ému par la joie de répondre à l'appel de Jean-Noël Dumont. Il vous l'a dit, il a été un des premiers à me repérer alors que j'étais encore un parfait inconnu. Il m'a régulièrement invité ici. Effectivement, il y a un de mes livres qui vient aussi de ses sollicitations. Donc, je lui dois beaucoup et je suis heureux aussi de venir ici pour retrouver mes amis lyonnais, que j'ai même un certain en face de moi, donc juste en face. Vous voyez que ce que je vais dire va être sans doute plein de précipitations et de préjugés pour ces raisons mêmes. Je pense que quand on doit faire un exposé sur la morale, il convient de commencer par s'accuser soi-même. Ouais, sinon, ce serait un petit peu fou. J'avoue aussi que là où je vais souligner mon incompétence, c'est que j'aborde une question particulière, alors qu'en philosophie, on raisonne surtout sur des principes les plus généraux. Et vous l'avez entendu, ce dont je vais parler ce soir trouve un ancrage dans l'actualité, voire dans l'actualité la plus récente. C'est lié effectivement à un projet du ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Vincent Peillon, qui se propose à l'échéance de la rentrée 2015 d'organiser un enseignement alors laïque de la morale à l'école. On ne sait pas très bien s'il faut parler de morale laïque, de morale civique. Il est revenu plusieurs fois sur le terme. En tout cas, il ne s'agit pas simplement d'une simple éducation à la citoyenneté. Il ne s'agit pas de donner des cours de civisme. La question morale est fondamentale pour lui. Il y a eu le 22 avril dernier, vous savez, la remise d'un rapport sur l'enseignement laïque de la morale à l'école. Et lundi dernier, nous avons pu avoir la primeur d'une charte de la laïcité à l'école qui contient, on pourrait dire déjà, les principes de cette morale. Alors, bien sûr que on pourrait dire immédiatement avec Vincent Peillon, payons-nous sa tête, ce serait un peu facile. Et je vous avoue que je vais essayer d'être, disons, le plus sympathisant possible, pour plusieurs raisons. D'abord parce que il y a des sondages qui ont été faits. Il y a eu notamment un sondage IFOP Ouest-France qui a affirmé, donc au terme de sondage d'opinion, que 91% des Français étaient favorables à cet enseignement de la morale. 91% et 48% très favorables. Ce qui signifie que, manifestement, Vincent Peillon essaye de... Enfin, il fait une offre, mais il semble répondre à une attente. Et là, on ne peut que le féliciter. Bon, enfin, aussi loin que les sondages... Vous voyez, les sondages d'opinion ne scrutent pas les reins et les cœurs. Hein, bon, mais voilà, en tout cas, de ce point de vue, disons tout superficiel. La deuxième chose, c'est que j'aime beaucoup Vincent Peillon parce que c'est un idéaliste. C'est un peu le dernier des hussards noirs de la République. C'est celui qui parle de la Révolution française comme s'il n'y avait pas eu Hannah Arendt et François Furet. Il y croit. Il en parle avec fougue, avec passion. Moi, j'aime ça. Et puis même, c'est rare de trouver un homme du XXIe siècle qui se pose quasiment en disciple direct d'Edgar Quinet, qui a existé, même s'il s'appelle Quinet, ou encore de l'obscur et désormais maintenant célèbre, enfin exhumé, éminence grise d'Émile Combes, je dirais le dauphin et puis celui qui est devenu vraiment un maître de la Troisième République, à savoir Ferdinand Buisson. Hein, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais voilà, grand personnage. Donc je reviendrai sur Ferdinand Buisson, bien sûr. Mais j'aime bien ça parce que ça me fait penser toujours à un roman de Chesterton qui s'appelle La sphère et la croix. Vous savez, où c'est l'histoire de ce catholique qui passe devant une vitrine et qui voit une sorte de pamphlet contre la Sainte Vierge. Et alors, il rentre dans la boutique. Enfin, je crois qu'il casse la vitrine, plus ou moins. Il rentre dans la boutique. Il dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et il provoque l'autre en duel. Enfin, il essaye de faire ça. Et l'autre est ravi de trouver enfin un adversaire. Alors que tant de personnes passaient devant sa vitrine, sa devanture, vous voyez, sans réagir jamais. Et l'autre aussi est enfin ravi de trouver un véritable anti-chrétien, un véritable athée Ouais, ça c'est bien, quelque chose, des personnes vraiment convaincues, parce que généralement la plupart des gens se situent en deçà, vous voyez, de la foi ou de l'absence de foi. Donc là, voilà quelqu'un qui ne se laisse pas porter par le courant, qui est... Et alors toute l'histoire, c'est que ils essayent d'avoir un duel. Et à chaque fois, ils n'arrivent pas à trouver de lieu parce qu'il y a des gens qui essayent de les réconcilier, de dire « mais voyons, c'est pas si grave, vous pouvez pas faire ça », etc. Donc voilà, Vincent Peillon est un ennemi comme on les aime, qui vont, à mon avis, qui pourraient aller jusqu'au duel et qui ne se contenteraient pas de demi-mesures. En tout cas, c'est ce qu'on peut penser à la lecture de ces livres avant... qu'il ne devint ministre. Parce que depuis qu'il est ministre, il a dû en rabattre, il est devenu transigeant, il a un discours tout en demi-teinte, et j'avoue que je le regrette un peu. On pourrait dire que le pouvoir, bah c'est souvent le cas, le pouvoir a diminué sa puissance parce qu'il faut, il lui faut ménager les sensibilités pour conserver son poste. Donc voilà, donc on va essayer quand même de voir ce qu'il dit et de voir ce qu'il y a derrière. Enfin, il y a une troisième motif pour lequel je ne veux pas me payer Peillon, c'est que là, comme disait Heidegger, la polémique manque la tenue de la pensée. Et si la polémique manque la tenue de la pensée, c'est moins par ses emportements, me semble-t-il, que parce que en se braquant contre une erreur, contre un adversaire, elle risque toujours de tomber dans l'erreur contraire. Elle risque aussi de ne pas voir que celui qui est en face de lui, donc justement, dénonce certaines erreurs et qu'on pourrait s'accorder avec lui sur ces dénonciations-là. Par exemple, il est évident que dans le projet de Vincent Peillon, c'est l'objectif, on pourrait dire, numéro 1. Il y va d'une, je vais vous lire ce qui ça s'appelle, la remobilisation du principe de l'intérêt général. J'essaye d'employer le vocabulaire officiel, hein. Alors, vous voyez, c'est un peu lourd, mais la remobilisation du principe de l'intérêt général. Double génitif, hein, que Flaubert eut récusé, mais bon. Alors, et c'est vrai que la morale irait là contre le culte libéral des intérêts particuliers. À la limite, on pourrait dire pas besoin de morale, puisque du point de vue de la fable des abeilles de Bernard de Mandeville et puis d'un anarchisme de droite bien compris, c'est-à-dire l'anarchisme du marché, eh bien, il faut cultiver les passions individuelles, chacun poursuivant son égoïsme, eh bien, ça crée de la prospérité générale, chacun poursuivant son intérêt particulier. Au final, ses intérêts s'ajustent à peu près et on arrive, grâce à la main invisible, vous connaissez Adam Smith, à l'équilibre du marché, ce qu'il y a de meilleur, à une sorte d'optimum. Là, il y a une critique, me semble-t-il, qui vient de la gauche, qui est la critique de la poursuite des intérêts particuliers, des agents économiques. Et donc, il y a quelque chose qu'on pourrait agréer. L'objectif numéro 2, c'est la formation du sujet moral, du jugement moral, de la personne morale. Comment s'opposer à cela ? Vous voyez ? Et bien sûr que derrière cela, il y a l'idée de développer l'esprit critique, la liberté personnelle, et donc d'aller contre une autre figure, on pourrait dire, dangereuse, c'est-à-dire celle d'un fondamentalisme, quel qu'il soit. Vous voyez, contre le libéralisme, contre le fondamentalisme, moi je souscris. Je ne veux pas ignorer qu'il y a ça aussi dans le projet de Vincent Peillon. Cependant, vous voyez, il y a un effort qui dissimule mal la crise radicale et profonde du laïcisme et du pacte républicain. J'avoue que j'ai découvert ce terme quand j'étais à une émission de télévision avec, comment s'appelle, Jean Tellet, c'est ça ? Et puis, il y avait aussi Henri Guaidon, etc. Il parlait du pacte républicain, je ne savais même pas ce que c'était. Alors c'est pour ça que je les ai traités de dinosaures, mais bon, peut-être j'allais un petit peu vite en besogne. Mais j'avoue que c'est vrai, j'appartiens à une génération qui n'en a rien à faire. Je suis le signe que c'est en crise. Je n'en ai strictement rien à faire. Je ne sais même pas pourquoi il faudrait se battre pour la République. Je n'ai jamais su pourquoi. Enfin, ça ne m'a jamais intéressé. Donc, effectivement, j'ai besoin d'être catéchisé. Et il est certain qu'aujourd'hui, on est face à des générations qui ne croient plus en ce discours-là, en cette rhétorique-là, parce qu'on est dans un contexte, et c'est ça qui est très intéressant, d'effondrement du progressisme et de l'humanisme, disons, athée, enfin du simple humanisme. Voilà. Effondrement du progressisme, effondrement de l'humanisme anthropocentrique, d'une certaine façon. Nous ne croyons plus aux grandes utopies politiques qui ont animé une bonne partie du XXe siècle, mais qui, pour beaucoup, ont conduit au goulag, à Auschwitz. Et puis, nous vivons aussi dans le sentiment que nous ne sommes plus vraiment dans une époque, mais dans un délai, comme dit Gunther Anders, à savoir que nous avons une conscience de la finitude de l'espèce humaine en tant qu'espèce, de la possibilité de sa destruction totale. Ma génération est une génération, en tout cas, qui a vraiment ce sentiment d'être dans des temps de la fin, disons. Et que toutes ces grandes envolées lyriques sur le progrès sont absolument inefficaces. Vous voyez ? D'où l'effondrement du progressisme, d'où le catastrophisme généralisé et d'où aussi l'engouffrement dans une forme de libéralisme, enfin, qui est une sorte d'empire du moindre mal, hein, comme disait Michéa. Alors, l'enjeu, vous voyez, c'est qu'il y a une véritable crise de la République, une crise de ce qu'il appelle les valeurs républicaines, parce qu'il n'y a plus la foi dans le progrès, il n'y a plus ce qu'on peut même appeler la foi laïque. Hein, vous êtes conscient de là de l'oxymore hein, que j'emploie. Et l'enjeu, c'est en réalité, moins il l'a avoué lui-même dans son discours du 22 avril au moment de la remise du rapport, moins de transmettre les valeurs de la République que de refonder la République par l'école. Vous voyez, il y avait l'idée « refondons l'école », mais en réalité, il s'agit de refonder la République. Nous sommes à une époque de crise radicale de la République. Et voilà un homme qui essaye de... il sent que le bateau coule, alors il essaye de revenir à l'inspiration des anciens, et il essaye de retrouver le souffle des Lumières, de la Révolution française, et surtout des grands... donc, Edgar Quinet, Pierre Leroux, Louis Blanc et Ferdinand Buisson. Je suis désolé, hein, vous ne les connaissez peut-être pas tant que ça, mais enfin voilà, c'est les références majeures de Vincent Peillon. Hein. Moi, j'aurais pu dire Jules Ferry aussi. Hein, mais... Alors, après ces quelques paroles d'introduction, donc on va essayer de faire on va essayer de suivre le discours officiel. Je vais parler en trois parties. Ma première partie sera les contradictions du discours officiel. Ma deuxième partie sera la cohérence du discours officieux. Et ma troisième partie, ce sera l'essence du discours peyonesque. Je me suis pensé d'ailleurs qu'un payon, c'est vraiment un paysan, quoi. C'est vraiment magnifique, quoi. Non, c'est vrai, je serais un vrai payon. L'essence du discours payonesque, donc qui est vraiment anti-payon, à mon avis, ou, petite référence enfin, paraphrase de Jean-Claude Michéa, ou de l'impossibilité de dépasser la technocratie par la gauche. Parce que Michel a écrit « L'impossibilité de dépasser le capitalisme par la gauche ». C'est ça son grand thème. Mais bon, là, c'est un peu décalé. Alors, première partie, les contradictions du discours officiel. Grâce à la demande de Jean-Noël Dumont, j'ai pu m'ouvrir à tout un monde qui m'était inconnu. Parce que vous pensez bien que ça ne m'intéresse absolument pas. Mais il m'a demandé de parler de la morale à l'école. Alors, j'ai regardé le discours de Vincent Peillon lors de la remise officielle du rapport sur l'enseignement laïque de la morale à l'école. Je l'ai écouté très attentivement. Et il commence tout de suite par dire « Oui, j'ai parlé d'une morale laïque et immédiatement, il y a eu une levée de bouclier, il y a eu la crainte de deux dangers. Le premier danger, c'est de blesser les consciences. Le deuxième, ce serait d'instaurer une morale d'État, comme Xavier l'a suggéré d'ailleurs. » Alors, il explique que contre le premier danger, hein, blesser les consciences, il dit « La laïcité n'est pas anti-religieuse. » Il insiste là-dessus. Il dit « La laïcité n'est pas anti-religieuse. Elle propose une morale commune à tous, athées et croyants, commune même à toutes les religions. » C'est assez extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que ce commun, ou ce plus petit dénominateur commun ? Est-ce que c'est une fiction ? Enfin, en tout cas, voilà le discours. Hein, de la morale commune. Il y a une morale commune. On entend qu'il y a une morale commune. Le deuxième danger, le danger d'instaurer une morale d'État, il dit non, c'est tout le contraire de la raison d'État, car le but est la liberté de l'individu, c'est-à-dire de développer sa capacité à l'autonomie. Et là, il fait une référence à l'affaire Dreyfus. Et je crois que ça, c'est très intéressant. C'est même essentiel, on verra pourquoi. Mais, vous voyez, référence à l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, il y a une raison d'État. Hein, le capitaine Dreyfus, c'est parce que ça convient quoi, que ce soit la victime, le bouc émissaire, etc. Et on ne va pas essayer de chercher, on ne va pas rouvrir le procès, on ne va pas... Bon. Et puis, bien sûr, derrière la revendication de l'affaire Dreyfus, c'est de dire, attention, bien sûr, on lutte contre l'antisémitisme aussi. Bien sûr, c'est faire un appel pour dire la morale d'État, c'est quoi ? C'est aussi le nazisme, c'est aussi et tout ça. Donc, il y a cet arrière-plan-là. Donc, voilà les dangers que voit Vincent Peillon, auxquels il semble répondre, et il ne voit pas ses propres contradictions. En tout cas, les contradictions de son discours. Alors, j'ai testé pour vous aussi la charte donc, de la laïcité à l'école, hein, qui est sortie lundi. J'ai dû faire ça. Jamais j'aurais lu ce texte-là, maintenant que je suis en Suisse en plus. Eh bien, j'en ai... Bon. Donc, j'ai imprimé cette charte. Vous l'avez tous... Je ne sais pas, elle est en couleur. Hein. Bien sûr, elle est en bleu, blanc, rouge. Hein. Moi, je l'ai mise en noir et blanc. Mais c'est à cause de ma photocopieuse. Hein. N'y voyez pas du tout une sorte de... Voilà, de mépris ou de voilà, c'est si. Donc, vous avez cette charte de la laïcité à l'école. Vous voyez, en gros, il y a écrit « La République est laïque ». Charte de la laïcité à l'école. « La nation confie à l'école la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République ». Et en dessous, vous avez « L'école est laïque ». Donc, « La République est laïque »,« L'école est laïque ». D'accord ? Alors, juste quelques principes. C'est très intéressant parce que... qu'est-ce qu'on voit dans toute la structure ? On voit le passage d'un... C'est une structure très, très étonnante. Hein. On commence par le respect des croyances et on finit par le respect de la laïcité, qui devient plus essentiel que le respect des croyances. On commence par l'affirmation de la liberté d'expression et on finit par l'interdiction des signes. Alors, je ne sais pas si vous pouvez vous exprimer sans signes, vous. Et enfin, on affirme en gros la neutralité et on finit par la neutralisation. Donc c'est des contradictions internes. Moi je comprends le projet, je ne suis pas contre, hein. Ça commence comme ça. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Bon. Elle assure l'égalité devant la loi sur l'ensemble de son territoire, de tous les citoyens, tous les citoyens. Elle respecte toutes les croyances. Article 1er, elle respecte toutes les croyances. Après, la République organise la séparation des religions et de l'État. L'État est neutre à l'égard des convictions religieuses ou spirituelles. Il n'y a pas de religion d'État. D'accord ? Puis, 3, la laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Et cela, bien sûr, cela va se poursuivre avec la libre expression de ses convictions. parfait, magnifique. Mais après, qu'est-ce que vous voyez à partir du numéro 10? Voilà, c'est dans la queue qu'est le venin, comme dit le proverbe. Il appartient à tous les personnels de transmettre aux élèves le sens et la valeur de la laïcité, ainsi que des autres principes fondamentaux. Ça, vous avez le devoir de transmettre ça. Mais après, 11, les personnels ont un devoir de stricte neutralité. Ils ne doivent pas manifester leurs convictions politiques ou religieuses dans l'exercice de leurs fonctions. Donc au départ, il y avait une libre expression, mais là, il n'y en a plus. D'accord ? Et après, au numéro 14, dans les établissements scolaires publics, les règles de vie des différents espaces précisés dans le règlement intérieur sont respectueuses de la laïcité. Vous avez vu, on est passé du respect des croyances au respect de la laïcité pour elle-même. Et ça continue en disant « Le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. » Vous pouvez porter un t-shirt Coca-Cola. Ça, ce n'est pas une appartenance religieuse. Vous pouvez faire la promotion d'une marchandise. Hein, c'est bizarre. Mais l'appartenance religieuse, ça, pas question. Ouais. La gauche autorise la promotion des marchandises. Alors ça, c'est voilà, on passe du respect des croyances au respect de la laïcité pour elle-même, et on arrive à cette conclusion qui est incroyable. Le 15, vous voyez, vous attendez une sorte de couronnement, c'est le sommet, quoi. Un truc magnifique. Et le 15, c'est quoi ? Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement. Moi, je croyais au départ que la laïcité avait pour but de faire vivre les élèves. Eh bien non. Les élèves ont désormais pour but de faire vivre la laïcité. Donc la finalité, c'est la laïcité. Donc vous voyez, ce texte est contradictoire, enfin, tout simplement. Ça commence assez bien, hein, et puis après, on arrive à quelque chose qui ne tient absolument pas la route. Comment vous pouvez dire on respecte, c'est pour la liberté d'expression, et à la fin, attention, n'exprimez pas vos convictions, ne portez pas de signes sur les choses qui sont vos convictions les plus profondes ou les plus essentielles, rien. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et donc, on passe vraiment d'une affirmation de la neutralité à une neutralisation. Voilà. Le but, c'est vraiment de neutraliser les individus, les enfants. Alors, ça, c'était la première partie de contradiction. La charte, voilà, ça fait la charte. Maintenant, j'arrive à au rapport. L'objectif fondamental de ce rapport, c'est de renouer l'individu et le commun. Ça, c'est très intéressant. Il faut renouer le rapport entre l'individu et la communauté. Ce qui suppose qu'ils ne sont pas liés au départ. Et c'est ça qui est assez étonnant. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se jouer ici ? L'idée qu'on commence par rompre, par arracher l'individu à sa communauté, et qu'après tout le problème, c'est comment renouer cela avec le commun. C'est typiquement le problème des théories contractualistes de la formation de la société. Vous voyez, c'est ça, c'est la contradiction la plus profonde. On pourrait dire qu'au départ, hein, comme fait Aristote, nous appartenons à des communautés par notre naissance, à commencer par la communauté familiale. Et que par extension, si vous voulez, par association de famille, nous appartenons par la langue, par exemple, hein, la langue maternelle, nous appartenons à une communauté qui est plus vaste, vous voyez, etc. Mais c'est la naissance, c'est la nature, vous voyez, de l'homme, c'est-à-dire nature ici, c'est vraiment au sens propre de ce qui est donné aussi par la naissance, qui fonde le politique pour Aristote. Et donc, il y a une communauté naturelle. Or, ici, il s'agit d'arracher les individus d'abord à leur communauté ou à leurs appartenances de naissance. voyez, parce que la société, ce sont des individus qui décident de vivre ensemble. Bon, comment un enfant peut décider de vivre ensemble? Comment même un individu pourrait être conçu en dehors de la société, faisant le choix, vous voyez, vous savez, c'est toujours ces problèmes, hein, parce que tous ces discours-là d'un homme qui pèse le pour et le contre pour savoir s'il vaut mieux s'engager dans la société ou pas, qui est marqué par un soi-disant voile d'ignorance, par exemple, comme chez John Rawls, suppose quand même que ces hommes possèdent le langage. Donc, ils ont déjà une appartenance communautaire incroyable. Ils ont reçu, ils ont appris à parler. Ils appartiennent au domaine linguistique français ou anglais. Donc, vous voyez, tout ça, on fait comme si ça n'était rien. Donc, on balaye tout ça, on dit que ce sont des individus qui ont fait ce plébiscite de tous les jours qui est de vivre ensemble. Vous voyez, il y a un vrai problème qui est une conception individualiste, une anthropologie individualiste qui après essaye de renouer avec l'intérêt général. Et on ne voit pas que le problème est du côté de cette anthropologie. Et quand j'impute cela à Vincent Peillon, ça n'est pas faute de connaître sa pensée parce que, par exemple, dans le journal du dimanche du 1er septembre 2012, j'aurais jamais pensé devenir un spécialiste des propos de Vincent Peillon. Vous allez voir. Attends, je suis qu'au début, là. Je demande qu'on me donne une chaire dans une université. Si jamais il est vraiment... Non, mais c'est vrai, il est ministre de l'Éducation nationale. Il pourrait quand même faire quelque chose. Alors, pour donner... Ah, ça, je sais des choses aussi sur Taubira. Mais bon, mais c'est pas mon sujet, là. Je pourrais avoir une chaire Peillon et Taubira. Voilà. Ceux qui veulent faire des thèses sur tous les Taubiraïens et tous les Peillonesques. Alors, pour donner la liberté du choix, écoutez cette phrase magnifique. Pour donner la liberté du choix, il faut être capable d'arracher l'élève à tous les déterminismes. Familial, ethnique, social, intellectuel, pour après faire un choix. Donc, vous voyez, vous devez d'abord l'arracher à toute communauté d'appartenance, parce que c'est l'égalité des chances, vous voyez. Si vous naissez, par exemple, dans une famille arabe, ben, vous êtes malchanceux. C'est ça, hein, derrière le soi-disant antiracisme de la République, il y a ça quand même, pas de chance. Ah, mais vraiment. Donc, on va faire comme si c'était rien, on va le négliger parce que vous allez devenir un pur individu, vous voyez, grâce à l'école. Alors, bon, bien sûr, si vous naissez dans une famille catholique romaine, bien sûr, là, c'est le désastre absolu. Il n'y a pas d'issue, je pense. Mais bon, vous risquez même d'aller dans des écoles libres, ce qui est quand même terrible. Mais enfin, bon, tout ça pour dire que. Il y a cette idée qu'il faut d'abord arracher, parce que l'individu vraiment libre, c'est celui qui est arraché à ses appartenances. Pourquoi ces appartenances? Ces appartenances sont liées à sont des formes d'inégalité. Donc, et donc, on veut les arracher pour être vraiment dans la liberté. Mais vous voyez, après, vous posez le problème. Mais alors, quand est-ce qu'on va renouer avec le commun? Si vous ne concevez pas que l'homme est dès le départ un animal politique, que l'individualité est quelque chose, je dirais, déjà dans son essence de secondaire, vous savez, puisque l'individu s'obtient par division à partir du genre, de l'espèce, et à l'intérieur, vous arrivez à... Donc, vous voyez, c'est pas ce qui est premier. Hein. La notion d'individu part du général. Hein. C'est une notion logique. Bon. Et puis, l'autre chose, c'est que nous sommes toujours des êtres sociaux. Notre essence est on pourrait dire... dialogale, c'est-à-dire qu'elle est toujours liée à la parole et la communauté. Nous recevons la parole dans une communauté et nous parlons et même nous inventons, mais toujours à partir de quelque chose qui nous est donné. À tel point, je rappelle toujours cela, que quand, par exemple, vous êtes jeune et vous dites avec un chanteur qui fut connu, enfin qui fut un chanteur de ma jeunesse, qui disait « Société, tu m'auras pas », ben, vous voyez, on est toujours pris dans ces postures individualistes, rebelles. On est toujours pris dans une double contradiction. D'une part, on s'adresse encore à la société. Donc, on en a toujours un peu besoin, vous voyez. Ne serait-ce que pour lui dire ça. Ensuite, on emploie des mots qu'on a reçus de la société. C'est le legs, vraiment, ce mot, c'est vraiment un héritage. La première héritage, la première tradition, c'est la langue. Donc, vous voyez, on fait comme si cela n'était rien. Enfin, le dernier point, donc vous voyez, contradiction, renouer l'individu alors que l'individu avec le commun, alors qu'on commence par une rupture de l'individu avec sa communauté. Enfin, la dernière contradiction, c'est par rapport au projet général. Double contradiction. D'abord, il s'agit bien sûr de transmettre les valeurs. Or, je vous dis tout de suite, les valeurs, ça n'a rien à voir avec la morale. Les valeurs, par définition, une valeur, c'est ce qui n'en a pas. Parce que, ça c'est une phrase de Jean-Luc Marion, mais en fait, une valeur, c'est toujours ce qui fait l'objet d'une évaluation, c'est ce qui vaut par rapport à quelqu'un, si vous voulez, et c'est même ce qui vaut par rapport à autre chose. Donc c'est doublement relatif, vous voyez ? Ceci vaut tant. Donc, par définition, une valeur, elle est négociable, elle est convertible. Et ça pose un énorme problème. D'ailleurs, vous savez, ce qu'on appelle les valeurs françaises, hein, c'est ce qui est coté en bourse. Donc, c'est le lieu originel de la valeur. Mais plus encore, le vrai problème, c'est pas simplement cette sorte de relativité intrinsèque de la valeur. Penser à morale en termes de valeur, c'est déjà penser à marché de la morale. Et donc, c'est déjà être, finalement, de faire l'apologie du marché comme morale première. Bon, pour un homme de gauche, ça peut pas être bon. Et c'est pour ça que je parle d'une contradiction ici. La deuxième remarque, c'est qu'en plus, la valeur, si ça n'est pas l'essentiel de la morale. Au sens où le précepte n'est pas essentiel à la morale. La morale ne consiste pas à avoir un code ou une série de lois. C'est d'abord d'avoir des actes qui sont bons et donc d'avoir, on pourrait dire, des amours ordonnés et pas simplement des connaissances droites. Donc on doit, pas simplement savoir ce qu'il faut faire, mais pouvoir le faire. C'est pour ça qu'autrefois, on parlait plutôt de vertu. Et quand vous parlez de vertu, vous engagez un principe intérieur pour faire les choses. D'accord ? Alors ça, c'est complètement ignoré. Et c'est tellement ignoré que la morale n'est pas de l'ordre de la connaissance spéculative. Vous savez, la meilleure manière de jamais être un homme moral, c'est de devenir professeur de morale. Ce qui est déjà la position la plus ambiguë qui soit, quoi. Enfin, déjà perverse en tout cas. Bon. Mais vous voyez que vous êtes dans une idée que la morale, c'est d'abord connaître les lois, quoi, et non pas bien agir dans une situation particulière. Et alors, la seconde contradiction, c'est qu'en plus, ce qui est visé ici, je vous le rappelle, on parle de morale à l'école. En France, l'école, ça veut dire l'école primaire. Et je vous rappelle que le projet de Vincent Peillon porte spécialement sur l'école primaire. La morale laïque, ou l'enseignement laïque de la morale, doit se faire à raison d'une heure par semaine en primaire, donc à l'école, et en collège. Après, en lycée, c'est 18 heures par an. Donc quand vous arrivez à peu près au lycée, que vous commencez à pouvoir raisonner, on diminue. Vous voyez, c'est avant que c'est intéressant. À l'époque où vous n'êtes pas apte à une formation morale, mais apte à un formatage idéologique. Et c'est d'autant plus net que ce n'est pas la question ici, vous voyez, de la formation morale, que en plus, l'enfant ne peut pas être vraiment un être moral, pleinement moral ou pleinement éthique, pour différentes raisons. Hein. Mais je vous rappelle ce passage, j'ai pris l'éthique à Nicomaque d'Aristote, très bon livre, très actuel. Le jeune homme, je ne sais pas s'il y a des jeunes hommes ici, hein, mais, Le jeune homme n'est pas un auditeur bien propre à des leçons de politique, car il n'a aucune expérience des choses de la vie, qui sont pourtant le point de départ et l'objet des raisonnements de cette science. De plus, étant enclin à suivre ses passions, parce que quand on est jeune, il y a l'effervescence des passions, vous savez, une jeune femme, par exemple, elle tombe amoureuse de chaque semaine. Je parle d'une adolescente, hein, bien sûr. Enfin, tout correspond au lieu de l'enseignement de la morale aussi. De plus, étant enclin à suivre ses passions, il ne retirera de cette étude rien d'utile ni de profitable, puisque la politique a pour fin non pas la connaissance, ce qu'il faut faire, mais l'action, donc la bonne action. Donc vous voyez, le jeune, il y a deux remarques, le jeune est dans l'effervescence des passions, il a tendance à être entraîné par ses passions, hein, et il était une époque où on savait reconnaître les avantages de la vieillesse, vraiment. Cet apaisement de l'effervescence intérieure, et le fait qu'on pouvait avoir, vous voyez, un jugement vénérable. Et puis, de l'autre côté, surtout, et ça c'est un point qui est décisif, le jeune manque d'expérience. Et vous remarquerez qu'ici, on est dans une structure qui est complètement opposée à celle d'Emmanuel Kant, qui a tendance à dire que, en gros, on regarde à l'intérieur de soi, dans sa raison, et là, on voit une loi universelle. Le point de départ, c'est la loi universelle, c'est les valeurs, ici, valeurs absolues pour Kant, mais et c'est des valeurs, il suffit de les dire, de les énoncer, et puis là, on entre dans la morale. Non, le point de départ, dit Aristote, ce sont les choses de la vie. Le cœur de la morale, c'est de bien agir dans des situations particulières. Donc, ce n'est pas simplement de connaître des règles générales. Si vous les appliquez comme ça, hein, à l'emporte-pièce, ça ne marche pas. Vous n'avez plus le sens, vous n'avez plus le tact. Vous allez dire, par exemple, il faut dire la vérité. Alors, vous allez balancer des trucs, hein, vous allez vous payer votre bonne conscience, mais on dit la vérité pour qu'elle soit entendue. Il faut la dire de la bonne manière, au bon moment, dit Aristote. Vous voyez ? Et ça, ça suppose de l'expérience. Donc, cet esprit de finesse-là ne peut pas exister chez un petit enfant. Vous voyez, chez un enfant, il faut traverser l'expérience de la vie. La morale, ce n'est pas quelque chose qu'on a jeune. D'accord ? Je devrais dire plutôt l'éthique, parce que c'est vrai que le mot morale renvoie plutôt à des normes, alors que l'éthique renvoie plutôt à des fins, hein, des finalités, et on cherche, voyez, les meilleurs moyens d'atteindre cette fin. Mais il reste que ici, voyez, malgré tout, il est certain que même s'il s'agit d'appliquer des normes à des cas particuliers, voyez, on ne peut pas le faire bureaucratiquement, idéologiquement. Sinon, voyez, on perd le sens des nuances de celui qui est là, devant moi. Donc, vous voyez qu'Aristote nous dit que la première démarche de l'éthique, c'est d'abord d'être à l'écoute de la nature des êtres, de l'endroit où ils sont, et de respecter le temps, on pourrait dire, de maturation. De telle sorte que l'enfance est un lieu qui est pré-éthique, para-éthique, mais c'est pas du tout le lieu de l'enseignement comme tel de la morale. Et là, on a l'impression qu'il s'agit vraiment de faire avec le projet, hein, d'essayer de faire pousser l'herbe en tirant dessus. De ne pas respecter vraiment la maturation et la temporalité humaine. Alors ça, ce sont les contradictions du discours officiel. Maintenant, je vais passer à la cohérence du discours officieux ou Vincent Peillon devant le buisson ardent. Parce que Vincent Peillon a eu une révélation devant le buisson ardent. Je veux parler bien sûr de Ferdinand Buisson, qui était un homme plein de fougue et d'ardeur. Donc. Et il a écrit un livre en 2010 dont je vous recommande la lecture, vraiment. Ne l'achetez pas, bien sûr. vous le trouvez dans des bibliothèques. Une religion pour la République, la foi laïque de Ferdinand Buisson. Vous avez vu ce sens de l'oxymore. Une religion pour la République, la foi laïque de Ferdinand Buisson. Peut-être qu'il y a aussi un oxymore avec Ferdinand Buisson, mais je sais pas. Et donc, vous avez ici vraiment d'abord la révélation de Vincent Peillon. Ça a été une révélation pour lui parce qu'il ne savait pas que derrière tout ce qu'il aimait, il y avait Ferdinand Buisson. Et là, tout d'un coup, il découvre Ferdinand Buisson grâce à un texte de Pierre Nora. Et il se déchausse devant lui. Et il écoute la révélation du nom de la République. Pourquoi ? Parce que... Et c'est là que vous allez voir pourquoi l'intérêt pour l'école primaire. Parce que Ferdinand Buisson est notamment l'auteur de cette somme de la pédagogie de la Troisième République, le fameux dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, qui ne faisait pas moins de 5000 et quelques pages, 5600 pages, en 4 volumes. 5600 pages. C'est extraordinaire. Et qui a été vendu, pour l'époque, c'est incroyable, hein, à plus de 8000 exemplaires. Et c'est donc la somme, le chef-d'œuvre de la pédagogie de la Troisième République. Et alors, on apprend que Ferdinand Buisson a été ministre de l'Éducation nationale de 1879 à 1896, qu'il a été le président de l'Alliance pour la religion universelle, le président de la Ligue des droits de l'homme, qu'il a reçu en 1927 le prix Nobel de la paix. Il est aussi président de l'Association nationale des libres penseurs de France en 1904. Et puis surtout, il a été pendant des années, alors que les gouvernements se succédaient, mais c'est lui qui assurait la continuité, il a été le directeur national de l'enseignement primaire. Donc c'est vraiment un spécialiste de l'enseignement primaire. J'ai pu d'ailleurs lire, mais je ne vais pas vous les lire parce que là, ce serait des cas particuliers, mais j'ai trouvé sur le site de la Bibliothèque nationale de France, c'est Leçons de morale. Il a fait un livre de leçons de morale, justement, pour essayer de voir ce qui pourrait inspirer Vincent Peillon. Et c'est vraiment pas mal, enfin, c'est très gentil, quoi. Bon, ça finit sur « Vive la République, vive la France », hein, comme le sommet, mais bon, ça a l'air sympa comme ça. Voilà, ce qui m'intéresse pour la Suisse, c'est qu'il a à un moment un projet d'église libérale qu'il veut installer à La Chaux-de-Fonds. Alors, la figure de Ferdinand Buisson est vraiment une révélation pour Vincent Peillon. Tout d'un coup, il y voit un modèle. Et il dit il faut combler le déficit de discours sur Buisson en faisant notamment cette sorte de biographie ou monographie sur la pensée de Ferdinand Buisson comme tel. Il y a eu des textes sur le dictionnaire de pédagogie, mais il y avait peu de choses sur Buisson lui-même. Et donc, il veut combler cette lacune historique. Il écrit ce livre. Et là, on découvre une autre conception extrêmement cohérente par rapport à ce qu'on a pu lire dans la charte pour la laïcité à l'école, dans le rapport Gentillet, etc., et avec toutes ces contradictions. On voit que, effectivement, il y a un projet qui est beaucoup plus rigoureux. D'abord, il y a un projet, on pourrait dire, de laïcité positive. Mais ce n'est pas du tout entendu, le terme apparaît dans ce texte, mais ce n'est pas du tout entendu comme l'entendait, je crois, Nicolas Sarkozy, enfin Emmanuelle Mignon, me semble-t-il. Je ne sais pas si c'est elle qui est à l'origine de ce concept, sans doute. Voilà, je vais vous lire quelques pages vraiment très intéressantes où on voit bien que la laïcité n'a rien à voir avec une sorte de simple neutralité. écouter ces passages de Vincent Peillon, qui écrit pas mal, en fait. Hein. On se souvient de la formule célèbre de Jean Jaurès disant que seul le néant est neutre. Buisson n'a jamais imaginé une laïcité qui puisse être d'indifférence. Faut-il imaginer que la République, par la laïcité, s'arrête au seuil des consciences dans le but de préserver leur liberté ? N'est-ce pas confondre alors neutralité confessionnelle et neutralité morale ou politique ? Confusion que Ferry avait déjà dénoncée. Citation de Ferry, « Nous avons promis la neutralité religieuse, nous n'avons pas promis la neutralité philosophique, pas plus que la neutralité politique. » Face à du positif, il faut du positif, continue Peillon. La laïcité est du positif, pas du neutre. Il y a bien dans la laïcité une part procédurale, réflexive, critique, que personne ne peut nier, mais on ne peut non plus réduire la laïcité intérieure à un exercice purement critique et négatif, à un effort de défiance à l'égard de toutes les affirmations et de toutes les ferveurs, à un pur formalisme de la raison. Il y a un contenu positif, moral, patriotique, voire religieux et politique de l'enseignement laïque. La République laïque n'est pas neutre, elle est offensive, conquérante. C'est net. Ça, c'est le premier point. Et alors, vous vous souvenez, on avait cette remarque sur la morale commune. Alors, j'ai entendu parler de morale commune. Alors, je me suis dit, tiens, d'où ça vient, la morale commune ? Voilà ce que dit Ferdinand Buisson, donc. Ferdinand Buisson affirme l'existence d'une morale universelle commune à la diversité des confessions, à l'universalité du genre humain, et pouvant se formuler en quelques propositions simples, accessibles à tous, et ne blessant pas les opinions dogmatiques ou les croyances particulières des uns et des autres. Cette morale universelle serait le noyau commun à toutes les religions. Si vous dites le noyau, c'est que le noyau, c'est pas Dieu, c'est pas, vous voyez, celui qui se révèle, c'est cela même. C'est ce que redit avec beaucoup de clarté l'article « neutralité » dans le fameux dictionnaire de pédagogie. On remarquera combien cette manière de parler de Dieu est à la fois respectueuse de tout sentiment religieux, exclusive de tout dogmatisme confessionnel. C'est intéressant, ça. Il y a le sentiment, on respecte, mais alors les dogmes, non. Bon, d'accord. Et propre à faire porter l'effort des enfants sur la morale pratique, en la leur faisant envisager de bonne heure comme le fond commun et seul véritablement essentiel de toutes les doctrines religieuses. Donc quand il dit commun, il veut dire c'est ça l'essentiel. Le reste est superfétatoire. Là c'est clair. On comprend ce qu'il veut dire. Alors, Vincent Peillon ne s'arrête pas là. Il veut suivre Ferdinand Buisson jusqu'à l'affirmation que la laïcité est une religion. Alors là, bien sûr, vous allez me dire, c'est quand même une contradiction dans les termes, puisque par définition, le laïc, c'est celui qui se distingue du religieux. D'ailleurs, je rappelle que le mot laïc ou laïcité est un signe ostensible dans notre langue, puisqu'il vient de la théologie catholique. Et que Vincent Peillon devrait éviter de l'employer, s'il voulait être vraiment cohérent. Mais enfin bon, il vit encore avec cet héritage obsolète. Bon, en tout cas, il n'en demeure pas moins que l'idée de Vincent Peillon, c'est qu'on arrive à l'idée d'une religion. Et donc, ça n'est pas une simple morale au rabais, c'est vraiment la morale par excellence qu'il s'agit ici d'enseigner. Si l'école se contentait d'une morale au rabais purement utilitaire, dit Vincent Peillon, elle ne pourrait pas prétendre faire pièce à l'Église et remplacer l'orthodoxie de cette dernière par une religion démocratique. Elle abandonnerait alors une part de l'espérance humaine, la meilleure, mais aussi la plus nécessaire aux religions révélées. La crainte qui anime Ferdinand Buisson, c'est qu'il y ait une sorte de complicité objective entre le positivisme ou la libre pensée matérialiste et le dogmatisme religieux. En refusant de répondre à cet élan de l'âme présent en chacun, le positivisme abandonnerait aux églises constituées le monopole de ce dernier et permettrait que s'ouvre ainsi, comme ce fut déjà le cas par le passé, une brèche dans laquelle pourrait se glisser la réaction contre-révolutionnaire et toutes les formes de contestation du principe républicain. C'est pourquoi la religion laïque que Buisson revendique pour le régime républicain est celle qui, dès l'école, serait-ce sous l'espèce de la morale laïque, éveille au fond de l'âme de nos enfants l'étincelle sacrée, continue à leur faire adorer de Dieu non le nom mais la chose et à mettre chacun d'eux tous les jours de sa vie face à face dans le secret de son cœur et de sa conscience en contact vivant avec le divin. Vous avez compris ici le raisonnement. Il faut que la laïcité assume Dieu ou le divin, parce que si la laïcité n'est pas religieuse, qu'est-ce qui se passe? Elle laisse toujours une place, finalement, aux religions. Il y a un élan de l'homme vers la transcendance, donc il faut lui proposer une transcendance laïque pour répondre à cet élan. Sinon, le laïcisme matérialiste, qui ne prend pas en charge l'âme ou le spirituel, voyez, fait le lit de toute réaction religieuse, voire même des réactions fondamentalistes. Et derrière ça, bien sûr, à quoi pense Vincent Payon ? Quelque chose que n'a pas rencontré Ferdinand Buisson, mais le fait que, par exemple, l'école de la République tend à faire le lit de l'islam ou de l'islamisme. Parce que franchement, quand on vous propose la petite morale, voyez, respecte ton machin, truc, voilà, pas de signe ostensible, et en face, il y a un jeune musulman qui vous propose finalement Dieu, une vie héroïque, quelque chose qui fait sens, quoi. Jusqu'au sacrifice. Enfin oui, enfin jusqu'à éventuellement l'attentat. Ce n'est pas tout à fait pareil. Mais bien sûr que ça répond beaucoup plus à un élan de l'âme. Et donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui, ici, ne marche pas. Et c'est pour ça qu'il faut que la laïcité devienne une religion. Qu'elle devienne, quel est son clergé, qu'elle prononce ses excommunications. Je vous lis quand même la fin de ce texte. Qui dit bien les choses. Alors j'avais noté quoi ? 277, page 277. Alors toute la fin, c'est pour dire cette religion laïque est une hérésie. Et bien sûr, le mot hérésie, ici, est pris dans un sens positif. C'est magnifique, c'est une hérésie. Alors, l'homme qui... Vous savez qu'hérésie, ça veut dire faire un choix. Hein, bon, c'est... Et donc, il a fait un choix, et comme c'est le culte du choix, donc on y est, là. Et voilà ce qui est écrit, qui est vraiment étonnant. Cette religion est une hérésie. Les détracteurs de Buisson ne s'y sont pas trompés. À leur façon, par un curieux paradoxe historique, ce sont eux qui, par leur critique virulente, lui ont accordé le plus bel hommage. Car toute l'opération consiste bien, avec la foi laïque, à changer la nature même de la religion, de Dieu, du Christ, et à terrasser définitivement l'Église. Non pas seulement l'Église catholique, mais toute Église et toute orthodoxie. Déisme humain, humanisation de Jésus, religion sans dogme, ni autorité, ni église, toute l'opération de la laïcité consiste à ne pas abandonner l'idéal, l'infini, la justice et l'amour, le divin, mais à les reconduire dans le fini sous l'espèce d'une exigence et d'une tâche à la fois intellectuelle, morale et politique. Donc voyez, ici, c'est l'idée que nous prenons Jésus moyennant certaines mutilations et opérations de chirurgie esthétique, nous prenons Jésus à l'Église et nous en faisons finalement un modèle du républicain. Voilà. Et désormais, que Jésus ne soit pas Dieu, il le dit dans un autre passage, c'est la possibilité pour tout homme d'être Jésus. Donc l'enjeu, c'est de devenir hein, Jésus, vous voyez. Et donc, il faut reprendre du religieux, mais en renonçant à ce qu'il appelle le dogme. En fait, ça ne veut pas dire qu'on voit bien qu'il a ses dogmes à lui. Hein. Mais il y a quand même le refus du dogme de la divinité de Jésus, de son lien avec une église, etc. Voilà. Alors tout ça, vous voyez, est quand même beaucoup plus cohérent. Là, on vous dit, voilà, on vous affirme la laïcité. C'est normal, hein, vous ne pouvez pas exprimer vos convictions religieuses, puisque c'est ça la vraie religion. C'est la vraie religion. C'est l'ultime religion. Et là, c'est cohérent. Et puis, il y a un dernier point, c'était la référence à l'affaire Dreyfus. J'ai quand même essayé de creuser ça, et bien sûr, j'ai cherché ça dans les textes de Ferdinand Buisson. Et je suis tombé sur un texte, une conférence qu'il a prononcée le 25 janvier 1869 à Genève. Et ça s'intitule « De l'enseignement de l'histoire sainte dans les écoles primaires ». C'est intéressant parce que l'enseignement de l'histoire sainte, c'est vraiment l'opposé, si vous voulez, de la morale laïque. À tous les niveaux, hein. D'une part parce que c'est saint, et religieux et pas laïque, mais peut-être à un niveau qui est encore plus fondamental parce que ce sont des histoires et non pas une morale. C'est-à-dire qu'on pense ici que ce qui est au niveau de l'enfant, c'est ce qui va toucher son imagination avec une narration, avec des héros. Alors, Buisson dit, c'est terrible, non, il ne faut surtout pas ça, parce qu'il faut développer la rationalité chez l'enfant. Vous voyez, le légendaire, c'est atroce, parce qu'il y a des tas de confusions. Donc déjà, vous voyez, hein, cette projection rationaliste sur le fait que l'enfant aurait, sur un mode intuitif, mais une sorte de raison déjà tout armée quoi, en lui-même. Bon. Mais il y a un autre aspect qui est très intéressant, c'est que ce qui gêne foncièrement Ferdinand Buisson, c'est l'idée d'une élection divine. Il dit que va retenir l'enfant en lisant l'Histoire sainte, c'est que l'enfant croira que Dieu, comme les hommes, a ses favoris, ses protégés. Donc, quoi ? Les Juifs. Et ça, c'est insupportable pour Buisson, et il a une phrase extraordinaire. « Je me demande en ce moment... cette notion est-elle conciliable avec celle de l'équité divine ? » C'est intéressant parce qu'il faut absolument que Dieu soit républicain et laïque, bien sûr. Bon, ça, c'est là. Vous remarquez, vous avez des gens qui sont assez connus, qui ont pignon sur rue, comme le comte Sponville. Qui parle de transcendance laïque, ce qui est assez extraordinaire, vous voyez, parce que ça veut dire que c'est de la transcendance, mais malgré tout, c'est soumis à la séparation de l'Église et de l'État. C'est quand même assez curieux. Enfin bon. Alors, vous avez quelque chose qui est ici assez significatif, c'est que pour Buisson, la première inégalité qu'il faut absolument réserver, rejeter, détruire, c'est l'élection d'Israël. L'élection du peuple juif. Et il va reprendre des choses qu'on voit chez Voltaire, hein, qui c'est vraiment le typique de l'antijudaïsme, voire de l'antisémitisme voltairien, qui est de dire, regardez les autres civilisations. Tout ce qu'elles ont apporté, les Grecs, les Zoroastriens, les Perses, donc les Chinois. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Pourquoi ces Juifs-là ? C'est pas grand-chose. C'est pas si important. Et l'idée, c'est que Dieu se communique également à tous les hommes dans toutes les civilisations. Il faut absolument qu'il y ait une équité du point de vue divin. La notion d'élection est insupportable. Vous voyez ? Et c'est très intéressant parce que, voyez, ça veut dire qu'il y a une incapacité à penser l'inégalité dans ce qu'elle a de bon. Le fait que, par exemple, l'un, en recevant plus que l'autre, puisse avoir la position, par exemple, d'enseignant ou de serviteur des autres. Vous voyez, que l'un, en étant différent et en plus même différent hiérarchiquement de l'autre, puisse être à la fois donateur et donataire pour l'autre, un peu comme dans l'image du corps telle qu'on la voit chez saint Paul, voyez, où il est dit la tête même a besoin des pieds. Non, cela, il faut le résorber pour arriver à une sorte de pur individu qui soit d'une certaine façon pars totalis, qui soit le tout en même temps, et qui est à la fois la partie, mais il est le tout. Et d'une certaine façon, on n'arrive pas à penser la véritable solidarité des personnes, c'est-à-dire leur différence, leur inégalité aussi, mais le fait que, justement, cette inégalité est une richesse et même une beauté, comme le dira Thomas d'Aquin, parce qu'elle permet justement la communication de l'un à l'autre, voyez, par rapport à ce qu'il n'a pas. Vous voyez, on voit bien que le refus de certaines inégalités, de certaines différences radicales, telles que la présente la République, enfin, a pour but déjà de produire une force de déliaison. Et donc on est déjà dans l'individualisme. Et après on se pose la question de comment on va faire pour reproduire du commun. Donc vous voyez que lorsqu'il attire sur l'affaire Dreyfus, il attire l'attention sur l'affaire Dreyfus, malgré tout, c'est à travers un anti-judaïsme radical. C'est-à-dire que Dreyfus, c'est pas en tant que juif qu'on l'accepte, vous voyez, c'est en tant que capitaine de l'armée française et en tant qu'innocent. Mais le fait que Dreyfus soit juif, par exemple, c'est insupportable pour lui. C'était d'ailleurs insupportable pour Dreyfus lui-même, hein, je tiens à le rappeler. Qui a découvert d'une certaine façon sa judaïté dans le cadre de l'affaire, puisqu'il lisait des textes sur... Il était plutôt kantien, je crois, enfin, il lisait des choses un peu... Mais c'est très intéressant. Donc vous voyez, derrière la question de du refus de l'élection, c'est finalement le refus radical d'une différence. D'une différence qui nous échapperait, qui serait là comme un donné initial. Et donc derrière tout le projet, il y a bien sûr le refus de la figure du donné. Tout doit être production, construction, à partir d'une égalité initiale, donc en fait, vous voyez, de quelque chose qui est relativement informe. Alors j'en arrive à la question de l'essence du discours de Vincent Peillon. L'impossibilité de dépasser la technocratie par la gauche, donc. Il faut savoir que avant le livre sur la religion de la République, Vincent Peillon a écrit un livre qui s'intitule, toujours aux éditions du Seuil, c'est mon éditeur, La Révolution française n'est pas terminée. Et je vous cite un passage bien caractéristique de ce livre. La Révolution française n'est pas terminée. La Révolution française est l'irruption dans le temps de quelque chose qui n'appartient pas au temps. C'est un commencement absolu. C'est intéressant. Hein, c'est l'acte de l'incarnation, le commencement absolu, c'est de la création. C'est la création, vous avez vu ? C'est la création de l'univers, quoi. C'est Dieu, quoi. C'est la présence et l'incarnation d'un sens. Après la création, l'incarnation. Hop, vous allez voir, on a tout dedans. Et la rédemption, attention, d'une régénération et d'une expiation du peuple français. Tout y est. Extraordinaire, dans le sens de la parodie. 1789, l'année sans pareil, est celle de l'engendrement par un brusque saut de l'histoire d'un homme nouveau. La révolution est un événement métahistorique, c'est-à-dire un événement religieux. La révolution implique l'oubli total de ce qui précède la révolution. Et donc, l'école a un rôle fondamental puisque l'école doit dépouiller l'enfant de toutes ses attaches pré-républicaines pour l'élever jusqu'à devenir citoyen. Et c'est bien, écoutez maintenant le baptême, hein, bien sûr, une nouvelle naissance. Ah oui, vous attendez, parce que vous avez vu, il y a l'ordre avec les sacrements qui arrivent après, il y a rédemption. Vous avez les sacrements. Et c'est bien une nouvelle naissance. C'est pas, j'invente rien. La phrase, imaginez, qu'est-ce qu'il va y avoir après ? Le baptême, il faut qu'on ait l'Eucharistie quand même. Non, vous n'avez pas ? Bon alors, exactement. Et c'est bien une nouvelle naissance, une transsubstantiation qui opère dans l'école et par l'école, cette nouvelle église avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses nouvelles tables de la loi. Donc là, vous voyez, la substitution est parfaite. je voudrais pas reprendre la phrase de Saint Jérôme qui dit que Satan est le singe de Dieu, mais c'est pas parce que là, ce qui est intéressant, c'est que il y a plein de bonne volonté. Il n'y a même à la limite que de la bonne volonté. C'est ça le problème. Rien n'est plus terrible que d'avoir que de la bonne volonté, parce que vous rentrez dans quoi ? Dans l'idée du volontarisme, dans l'idée que la volonté prime sur l'être. Il y a quelque chose qui est antérieur à la bonne volonté. C'est le fait que l'être est bon, l'être tel qu'il est donné. Or, ici, c'est refuser radicalement. Vous voyez, l'être n'est pas bon en lui-même. C'est à partir de la volonté révolutionnaire qui est le vrai commencement absolu que les choses deviennent bonnes. Donc on est dans une structure de primat de la volonté, de la construction sur l'être. Et c'est pour ça qu'on peut mépriser l'histoire des individus. Vous voyez, puisque l'histoire, tout ce qu'il y a eu avant, n'existe pas. C'est un événement métahistorique, c'est un pur commencement. Ça veut dire que dans la logique de la Révolution française, celui qui adhère à la Révolution française a une initiative absolue, vraiment une dimension, une initiative absolue, donc de créateur, si vous voulez, sur la matière historique. Et je me suis vraiment intéressé au fait que l'histoire n'est pas un lieu... Vous voyez, qui nous a, et la nature, on pourrait dire. La nature et l'histoire, vous voyez, c'est quelque chose qui nous donne des formes, pas simplement des matières. Et la forme, c'est quoi ? Vous voyez, notre forme sexuée, par exemple, hein, pour la nature. Pour l'histoire, le fait que nous naissons d'une famille avec une appartenance, par exemple, juif de naissance ou français de naissance, et donc avec cette inégalité, sans doute, enfin, cette différenciation bien nette. Bien, tout cela, vous voyez, ne vaut rien. Ces formes-là disparaissent au profit de l'idée que tout ça n'est plus que matériaux. La nature ne fournit que des matériaux, l'histoire ne fournit plus que des matériaux. Et pour la construction républicaine, pour le projet républicain. Et donc derrière cela, il y a une pensée qu'on peut appeler une pensée technocratique. C'est-à-dire que ce qui prime, c'est le faire volontaire et non pas l'être tel qu'il est donné. Il va falloir, l'être tel qu'il est donné n'est qu'un matériau, il n'y a rien à accueillir, il n'y a rien à écouter dans l'être. Vous voyez ? Ce n'est pas du tout la techné grecque. Vous voyez, la techné grecque, c'est d'abord d'écouter ce que nous indique la nature, de telle sorte que l'art va imiter la nature pour la prolonger et, d'une certaine façon, la porter à sa perfection. Non, là, c'est la nature, c'est un matériau pur. On est vraiment dans la technique au sens de la technoscience moderne. Et donc, parce que ce qui est toujours très intéressant chez un auteur, c'est ce qu'il dit malgré lui. Et notamment à partir de certaines tournures. Et j'ai pris Vincent Peillon en flagrant délit de certaines tournures. Par exemple, qu'est-ce qui est merveilleux chez Ferdinand Buisson ? L'image que l'on peut avoir de lui, et en particulier de son action au ministère de l'Éducation nationale, de 1879 à 1896, est celle d'un homme qui pétrissait de ses mains, sans relâche, la matière même de l'histoire. L'histoire est matière, c'est très intéressant. Et attention, alors je me suis dit, ça lui échappe, page 18, mais il y tient, sans, alors qu'il s'est relu, hein, parce que page 29, qu'est-ce qu'on retrouve ? Ferdinand Buisson, redisons-le, est l'homme qui pétrit lui-même. C'est vous qui aimez ce mot pétrir. Hein, bon. Peut-être qu'il voulait être boulanger en fait. Hein. Il aurait été mieux à sa place, hein, je ne sais pas. Enfin, bon. Ferdinand Buisson, redisons-le, est l'homme qui pétrit lui-même de ses mains la matière de l'histoire. Il est dans l'atelier. Je ne sais pas si vous voyez, hein, la figure de l'enseignement primaire, c'est l'atelier. C'est quand même assez significatif. Il ne sépare pas la conception et l'exécution. Bon, alors je me dis, bon, peut-être que c'est moi qui abuse de dire que finalement sa conception derrière c'est celle d'une logistique technocratique. Mais enfin, j'ai vu dans d'autres pages, j'ai, J'ai plus retrouvé la page, mais il y a une page où il dit que si quelqu'un ne suit pas les valeurs républicaines, il faut quand même l'enfant, il faut le forcer à devenir républicain. Donc il y a vraiment l'idée d'un forçage, hein, c'est écrit dans le texte. Hein. Mais alors vous avez aussi un autre passage qui est vraiment la théologie technocratique par excellence. Écoutez cela. Ce qui est vrai en théologie, puisque Dieu est affaire. C'est intéressant, hein? Fabrication, privée. C'est même pas que. Il n'y a pas de Dieu. Dieu, c'est ce qu'on fait. L'est aussi dans l'action où la spiritualité de chaque créature devenue à l'image de Dieu créatrice doit animer et commander ses actes, ses engagements, ses œuvres, ou inversement, tout engagement dans la cité doit se retremper sans cesse, se mesurer à l'aune de la conscience comme ouverture sur l'infini. Et là, après, il parle de mystique, de religion. Mais vous voyez qu'on est dans cette primauté du faire sur l'être. Et on est dans une figure qui est vraiment celle, d'accord, de la technocratie ou de la technique telle que Martin Heidegger l'a très très bien décrite. Alors, c'est très étrange, j'en arrive à ma conclusion, je crois qu'il est temps que je conclue hein, maintenant. Je suis désolé, j'ai pas fondé la morale, hein. Si ce n'est peut-être pour vous laisser entendre que, de toute façon, s'il faut fonder la morale, enfin, en tout cas, il faut que ce soit un agir qui se fonde sur l'être de l'homme, et donc sur une juste considération de l'être, mais pas, vous voyez, comme simplement une sorte de pure volonté, de pur devoir, ou de pur exercice de la bonne volonté. Il faut être tourné vers le réel, vers ses nuances, vers ses différenciations, accueillir l'homme tel qu'il est donné par l'histoire, par la naissance, et lui permettre de se déployer, de s'accomplir, mais à partir de l'endroit où il est, et pas à partir d'une sorte de commencement absolu qui serait une table rase et donc une mutilation, vous voyez. Mais ce que j'ai voulu vous montrer, c'est qu'on a une revendication qui est une revendication typiquement de gauche, qui est la revendication de l'égalité. Et le grand thème, c'est que l'égalité républicaine vise à atténuer les inégalités naturelles ou historiques ou de naissance. Et derrière cela, bien sûr, il y a l'idée que le grand péché de l'homme, c'est d'être né, si vous voulez, et non pas d'être fabriqué avec zéro défaut. Or, ce qui est très intéressant, c'est que désormais, cette rhétorique de l'égalité sociale ne peut plus se passer d'un fondement technocratique, c'est-à-dire d'un appel à des possibilités techniques nouvelles. On en a eu l'exemple avec justement l'idée d'un soi-disant mariage pour tous, c'est-à-dire qu'on veut dire qu'il faut qu'il y ait égalité qu'entre un homme se marie donc avec un autre homme et quand un homme se marie avec une femme. Comment peut-on assurer cette égalité? C'est en donnant accès, vous voyez, à une pseudo, je dis pas paternité ou maternité, mais parentalité, puisque c'est ça le terme qui a été inventé, hein, la parentalité. Vous savez, autrefois on disait les parents au pluriel, puis au singulier on dit le père et la mère, mais on a inventé le parent et la parentalité, une chose vraiment nouvelle. Donc, non pas la paternité, la maternité. Donc, vous voyez, cette pseudo-parentalité, comment est-ce que je vais assurer cette égalité? Eh bien, uniquement par la technique, en fabriquant des hommes. Comment est-ce que même j'assure le fait que ce soit deux hommes, ça peut même être mieux que ce soit un homme et une femme? En fondant la chose sur la compétence éducative, donc encore sur une expertise technique. Parce que vous voyez que ce qui fonde la paternité ou la maternité, ce n'est pas la compétence. Quand vous devenez père, vous tombe dessus une autorité sans compétence. C'est ça le drame. C'est ça qui vous déséquilibre, qui vous rend un peu clownesque. Et vous êtes en train de devant votre enfant, vous dites, bon, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Alors bien sûr, vous êtes responsable, vous devez apprendre, mais voyez, C'est ça qui fonde tout, c'est l'autorité. C'est pas, on a cru que l'autorité se fondait sur la compétence. Mais c'est l'inverse, c'est la compétence qui se fonde sur l'autorité. Si l'autorité se fonde sur la compétence, il n'y a plus de pairs, mais des experts. Si la compétence se fonde sur l'autorité, vous voyez, à ce moment-là, il faut chercher une autre source à l'autorité que la compétence technique ou l'expertise, c'est forcément le fait qu'on est le père de la personne et qu'on a une responsabilité infinie. Parce qu'on est au principe de son être, parce qu'on est même au principe de sa détresse. Vous voyez votre enfant, vous dites, voilà, cet être vulnérable. C'est pas simplement qu'il est vulnérable et que je, par pitié, par compassion, je vais le... Mais je suis au principe de sa vulnérabilité. Et dès lors, j'ai une responsabilité infinie qui n'a rien à voir, qui n'a rien à voir avec la compétence. Vous voyez? Qui va engager des choses qui sont vitales avant d'engager, vous voyez, des pédagogies ou des moyens en vue de parvenir à un objectif. Donc, à partir du moment où vous voyez, on revendique cette égalité du parent numéro 1 et parent numéro 2 avec le couple d'un père et d'une mère, on est obligé de recourir à la primauté de la technique, que ce soit la technique éducative, que ce soit la technique procréative. Et donc, en fait, on voit bien que la grande erreur aujourd'hui de la gauche, c'est de ne pas être socialiste, c'est de ne pas se préoccuper vraiment du social, mais au nom de l'égalité, d'être vraiment le fer de lance du déploiement de la technocratie et de la manipulation du vivant dans le monde contemporain. Voilà, merci.